Bonjour Jean-Loup.
Bonjour.
Ben dis donc, c'est cool de faire avec toi cette première téléchronique du temps de confinement et quelque chose me dit que tu vas encore nous parler du coronavirus et de la manière dont on peut rendre sa gravité parlante pour tout le monde.
Exactement. Ben, du coup, dernière chronique, on parlait du nombre de cas de coronavirus et de leur constante mise à jour, hein, 312, 318, 412. Toutes ces mises à jour, dont le but principal est de nous maintenir en alerte. Et il a donc fallu 2 semaines pour que, enfin, l'info prenne la seule et unique manière qui vaille dans le cas de phénomène exponentiel, c'est-à-dire les temps de doublement. Alors, les temps de doublement des cas de corona dépistés, mais surtout de décès. Car finalement, tristement, et au vu des variations des politiques de dépistage en fonction des pays, c'est bien le chiffre des décès qui est, hélas, le plus fiable et le plus instructif. De là où en est l'épidémie. Mais ça y est, hein, on parle bien partout du temps de doublement depuis quelques jours.
Et on voit là, par exemple, le tweet du directeur général de la santé,
Voilà.
Jérôme Salomon.
Qui parle enfin du cas de doublement des cas dépistés. Et enfin, parce qu'en fait, le temps de doublement, c'est la meilleure manière d'exprimer une exponentielle pour qu'on arrive à intégrer sa puissance dévastatrice.
Voilà,
Lorsqu'on disait.
ce qu'il dit, c'est les cas doublent tous les 3 jours.
C'est ça, exactement. Dans les cas tous les 3 jours. Et là, on intègre bien à quel point ça va vite. Parce que lorsqu'on disait 50 morts aujourd'hui, ça disait quasiment rien. Si c'est 50 morts et que la veille, il y en avait 100 et l'avant-veille 200, ce n'est bien sûr pas la même chose que si la veille, il y en avait 30 et l'avant-veille 15. Le chiffre absolu ne rend pas compte ni de la tendance, ni du rythme de progression. Ça ne permettait pas d'anticiper. Et comme le professeur Combes, du coup, le chef du service d'infectiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le répétait à notre ministre de la Santé jeudi dernier, l'anticipation, c'est important.
Normalement, quand on allait faire une épidémie, il faut être toujours dans l'anticipation.
Oui, donc voilà, il a raison, c'est ça, c'est il faut anticiper. Et ça y est, on a enfin compris que le temps de doublement, c'est le moyen d'illustrer un phénomène exponentiel et donc d'anticiper. Alors, une croissance exponentielle, c'est, rappelons-le, la croissance régulière d'une valeur multipliée par un pourcentage d'elle-même. Le temps de doublement, c'est simplement plus appréhendable qu'un pourcentage. Un pourcentage de croissance, on sait tous le calculer et c'est déjà une bonne information. Seulement, on a du mal à le saisir. Par exemple, si je te dis, Daniel, que la population mondiale augmente de 1% par an, c'est beaucoup et si oui, c'est beaucoup comment?
A priori, ça ne me semble pas énorme.
Eh bien, si la population croissait de 1% par an, mais ça voudrait dire que ça double tous les 70 ans. Ça voudrait dire que dans 70 ans, en 2090, on serait 15 milliards.
Eh bien là, tu as gagné, je me rends tout de suite mieux compte.
Eh bien, c'est ça, en fait. On devrait tous savoir plus facilement transposer des pourcentages en temps de doublement pour pouvoir de manière plus efficace comprendre, communiquer et utiliser cette info. Et la solution, elle m'a été communiquée il y a 10 ans par le professeur Bartlett.
Tiens, le retour du professeur Bartlett, ton préféré.
Encore lui. Hein. Et non, vous inquiétez pas, mes milliers d'heures de visionnage YouTube, ça n'est pas uniquement regarder en repeat sa conférence, parce qu'en plus, il n'y en a qu'une. C'est simplement que sa conférence, arithmétique, population et énergie, sur les exponentielles, moi, j'ai jamais vu mieux. Et donc, il nous donne un petit tips pour calculer facilement le temps de doublement en fonction d'un pourcentage.
We need to know how you calculate the doubling time, and it's easy. You just take the number 70, divide it by the percent growth per unit time, and that gives you the doubling time. So our example of 5% per year, you divide the 5 into 70, you find that growing quantity will double in size every 14 years.
Et donc voilà, pour être capable de passer instantanément des pourcents au temps de doublement, il y a cette méthode redoutable, diviser le chiffre 70 par le pourcentage, et ça donne en première approximation le temps de doublement. Prenons un exemple. En Italie, 10 jours après les mesures de confinement, hein, qui ont débuté le 8 mars pour l'Italie du Nord, ils sont encore sur une croissance des décès sur ces 3 derniers jours qui sont aux alentours de 20%. Ben, divisons 70 par 20, ça fait 3,5. On est encore, 10 jours après toutes les mesures de confinement, à un temps de doublement de 3,5 jours. C'est énorme. D'ailleurs, pour bien voir les temps de doublement graphiquement, il y a un autre outil, ce qu'on appelle les échelles logarithmiques. C'est des échelles où l'axe vertical, l'axe des ordonnées, il est ainsi fait qu'il y a autant d'écart entre 1 et 10 qu'entre 10 et 100, qu'entre 100 et 1000, etc., etc. Et ce genre de schéma, en fait, ça permet de voir l'intervalle de temps qu'il va falloir pour changer d'un facteur 10, si la tendance reste la même. Par exemple, si on regarde ce graphique du nombre de morts en Italie, où on a atteint le triste chiffre de 1000 morts aux environs de 1000 morts le 12 mars, on a du mal à tracer la courbe et à dire à quelle date approximative on atteindrait les 10 000 morts, par exemple. Parce que l'exponentielle, graphiquement, on a du mal à la projeter. Alors que si on a la représentation logarithmique, eh bien en fait, on peut anticiper. Parce qu'une courbe exponentielle, en échelle logarithmique, ça fait une droite. Et donc, on peut tout simplement tracer la droite qui passe par le plus de points et avoir approximativement, si les taux de croissance restent les mêmes, le temps où on aura passé un facteur 10, donc 1000 morts, 10 000 morts, etc. C'est triste, mais ça nous permet d'anticiper. Donc ça y est, enfin, on a enfin intégré qu'une exponentielle, c'était du doublement, c'était des temps de doublement, et que par conséquent, c'était vertigineusement dangereux. Mais ce qui est encore plus dangereux qu'une exponentielle, c'est une exponentielle sur laquelle on a du retard. Et en France, nous avons du retard sur notre exponentielle d'épidémie de coronavirus pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons pris du retard parce que notre gouvernement n'a pas voulu tirer les leçons du drame que vivent les Italiens. L'histoire, elle nous montre qu'il est très difficile d'anticiper ce que nous n'avons jamais vécu, même si rationnellement, nous savons bien que c'est ce qui va arriver. Beaucoup d'entre nous, par exemple, n'ont pas voulu croire au confinement français en France lorsqu'on l'a vu en Italie. Pourtant, rationnellement, qu'est-ce qui pouvait nous l'éviter ? De la même manière, s'il avait vraiment tiré les leçons de ce qui se passait en Italie, notre gouvernement n'avait aucune raison de ne pas prendre des mesures. Rien ne nous indiquait que nous n'allions pas suivre l'Italie. Et cette phrase de notre ministre le montre bien, elle est absolument, dans le même débat avec le professeur Combe, cette phrase est absolument dénuée d'anticipation.
À l'heure à laquelle je vous parle, par exemple, aucun signal de saturation d'un service de réanimation n'a été enregistré dans un hôpital français.
Oui, ce qui montre bien ça, c'est le fameux « à l'heure où je vous parle ».
Exactement, à l'heure où je vous parle. Quand on est face à des phénomènes exponentiels, l'heure où on parle n'a aucun sens parce qu'on a la tendance et on sait que ça va croître. Et quand on a du retard sur une exponentielle, c'est dramatique, alors que pourtant la Chine lointaine nous avait proposé 2 mois d'avance et l'Italie plus proche nous a proposé grosso modo 10 jours d'avance sur notre exponentielle d'épidémie. Et on a tout refusé. Et pourtant, l'avance dans ces situations pandémiques comme celle-ci, ça n'a pas de prix. Et alors pourquoi ça n'a pas de prix ? Parce que par définition, on a à peu près 10 jours de retard sur l'exponentielle d'une pandémie de coronavirus. Et c'est la deuxième raison qui explique notre manque de capacité d'anticipation, c'est ces 10 jours. Et ces 10 jours de retard, ils ont deux sources, deux explications. La première source du retard qu'on a sur cette exponentielle, c'est que les gens, ils ne sont pas dépistés très tôt. Ils sont dépistés que lorsqu'ils ont des symptômes graves, qu'on les accepte à l'hôpital et qu'on accepte de les dépister. Et ça, ce n'est pas au premier symptôme, c'est-à-dire que c'est aux symptômes graves. Parce que les premiers symptômes, ils ont lieu quelques jours avant. Et alors là, on a une infographie vraiment hyper intéressante. C'est une infographie qui montre deux types de cas de coronavirus. En orange, vous avez les malades lorsqu'ils sont dépistés, donc le plus souvent lorsqu'ils sont en détresse et viennent à l'hôpital. Et en gris, c'est la date où ils auraient déclenché les symptômes. C'est-à-dire qu'on a interrogé les patients pour savoir quand est-ce qu'ils ont déclenché les premiers symptômes. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la Chine, lorsqu'elle déclenche le lockdown, donc le 23 janvier à Hubei, ils ont dépisté 300 cas, c'est-à-dire que les autorités chinoises sont au courant des 300 nouveaux cas. C'est la barre orange. Alors qu'a posteriori, on sait que ce jour-là, il y a 2500 personnes qui ont été plus tard dépistées, qui ont commencé à avoir des symptômes. Donc en fait, la Chine, elle a décidé de faire le lockdown quand elle a vu, elle, 300 cas, mais en fait, il y en avait déjà 2500 à ce moment-là. Et c'est la difficulté.
Le lockdown, Jean-Loup, c'est le confinement. Hein.
Le lockdown, c'est le confinement, pardon.
Et il faut bien regarder la barre qui est effectivement sous le lockdown. Ouais.
Exactement. Là, au 23 janvier, en fait, on voit bien la différence entre ce que les autorités voient et ce qu'il y a déjà dans le pays, dans la province, qui plus tard sera dépisté. Donc, ils ont déclenché le confinement à 300 cas. Pour info, la France a dépisté 372 nouveaux cas de coronavirus le 10 mars, il y a une semaine. Donc ça, c'est la première source du retard, c'est qu'ils sont dépistés quelques jours après avoir déclenché les premiers symptômes, déclenché la maladie. Et la deuxième source de retard, c'est l'incubation, qui fait que la personne, elle peut être contagieuse pendant 3 à 14 jours, en moyenne on dit 5 jours, avant l'apparition des premiers symptômes. Donc on a déjà du retard parce que les symptômes graves, mais en plus, il y a le temps d'incubation. Et c'est là toute la difficulté, hein. On n'arrive pas à sentir que lorsqu'on détecte 100 cas, ils ont probablement contracté la maladie il y a 10 jours. L'exponentielle de la pandémie, elle a déjà 10 jours d'avance. Et si toute contagion, par exemple, s'arrête à ce moment-là, au moment où on fait le confinement, on mettra 10 jours à nous rendre compte du fruit du confinement de toute une population. Et s'il y a bien une chose qui n'est pas facile, c'est faire des sacrifices individuels maintenant pour des bénéfices collectifs dont on n'a même pas fait l'expérience plus tard. Et c'est
Comme
pour
le
ça.
montre bien ton dessin, là, tu peux nous l'expliquer?
Ben en fait, ça, c'est un mème qui est assez connu sur Internet, hein, et qu'on va revoir tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment, ben, on hésite entre sauver la vie de nos fragiles et, ben, c'est-à-dire sauver la vie de nos fragiles plus tard, c'est-à-dire un bien collectif plus tard, et quelque part un confort individuel maintenant, claquer la bise à ses copains et à ses copines.
Et
Et ça
notamment à
nous met
Sophie,
une
parce
situation
qu'on a
de panique.
on a vraiment envie de claquer la bise à Sophie. Hein.
Alors, on a vraiment envie, et c'est vraiment un sacrifice énorme que de ne pas aller au parc dimanche pour potentiellement sauver la vie de nos personnes âgées plus tard. Et donc, c'est ça qui est difficile avec la crise du corona, c'est que c'est une crise qui est notamment due à ces deux choses avec lesquelles on a tant de mal et qui rendent compte de notre et qui rendent notre capacité d'anticipation, pardon, extrêmement difficile. Première chose avec laquelle on a du mal, c'est les phénomènes exponentiels dont on a du mal à appréhender la puissance et plus largement les phénomènes non linéaires. Et ensuite, une inertie systémique qui fait que nos efforts individuels ont un résultat collectif à retardement. Et tu connais pas, Daniel, un autre problème qui a aussi ces deux propriétés?
Ah, il me semble que ça me rappelle vaguement la crise écologique quand même.
Ah, exactement. La crise écologique, c'est exactement la même chose, notamment le changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est un phénomène non linéaire aussi, où il y a des phénomènes, il y a des seuils bascules, on atteint des points bascules où tout peut s'accélérer dramatiquement, comme un rapport de l'ONU l'a indiqué il n'y a pas longtemps. Il y a de nouveau, le réchauffement climatique s'accélère en 2019 et on a très très peur de ces effets bascules. Donc il y a aussi ça dans la crise climatique. Et puis surtout, le changement climatique, sa période d'incubation, hein, si on pense que c'est une maladie ou si on fait l'analogie de la maladie, sa période d'incubation, c'est 10 à 40 ans, selon les estimations. C'est-à-dire que les efforts qu'on fera aujourd'hui pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, elles porteront leur effet sur le changement climatique dans 20 ans. C'est-à-dire que pour les 20 prochaines années, ce qui est fait est déjà fait. Et c'est pour ça que le changement climatique est aussi difficile à résoudre. C'est parce qu'il s'agit du même genre de choix, une baisse de confort aujourd'hui pour un bien collectif demain. Et c'est d'ailleurs bien ça l'origine du mème que j'ai repris pour le coronavirus, qui est entre éviter le crash écologique et sauver l'humanité et maintenir notre petit confort de vie. De la même manière, on a un petit peu du mal à choisir. Et c'est pourquoi la crise sanitaire actuelle, elle doit être, je pense, un laboratoire pour la crise climatique. Parce que la crise du coronavirus, c'est une sorte de bac blanc de la crise climatique. Alors, pas tout à fait blanc, parce que sûrement très lourd de conséquences, mais en comparaison, je suis désolé de le dire, c'est un bac blanc. Et on est bien parti pour prendre 1 sur 20. Du coup, on peut déjà se mettre à bûcher de toutes nos forces, parce que nous devons nous servir de cette crise pour comprendre pourquoi il est aussi difficile de prendre des mesures d'anticipation. Et surtout, nous devons apprendre à le faire. Nous devons apprendre à anticiper. Parce que l'examen climatique, il n'y a ni rattrapage, ni redoublement.
Eh bien voilà, une chronique confinée, ce n'est pas si difficile à faire.
Au revoir.
Allez, dans 15 jours.